Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Un Premier ministre, Jean Castex, à l'isolement à cause du Covid, alors que l'épidémie repart et qu'un nouveau Conseil de défense doit se tenir demain. Comment le gouvernement s'organise-t-il? Va-t-on vers de nouvelles restrictions sanitaires? Les dernières informations avec Jacques Seret. Les cafetiers et les restaurateurs ne demandent pas tous le passe sanitaire avant de vous servir. Ils sont appelés à resserrer la vis. On sera en direct avec l'un de leurs représentants. Un réseau de passeurs démantelé dans le nord de la France. Il gagnait plusieurs millions d'euros. Les informations de Lionel Gougelot à suivre. Des aides pour les agriculteurs. Un agriculteur se suicide tous les jours, selon la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. On va en parler avec un responsable des jeunes agriculteurs. Et puis le temps et la tendance météo. Anissa Dadi, avec de plus en plus de soleil cet après-midi.
Oui, le soleil qui illumine le ciel de la moitié nord depuis ce matin va s'étendre cet après-midi jusqu'aux trois quarts de la France. C'est dans le ciel du sud que le temps sera plus agité aujourd'hui, avec en fin de journée le début d'un épisode méditerranéen qu'on va suivre de près avec de fortes pluies.
Merci Anissa, à tout à l'heure pour la météo complète. Jean Castex, positif donc à la Covid, il ne ressent pour le moment que de légers symptômes. Jacques Seret, bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Du service politique de CNews, d'Europe 1, pardon. On a vu le Premier ministre sans masque, serré des mains, notamment lors du congrès des maires de France. En termes d'image, c'est quand même ennuyeux. Hein.
Oui, parce que ces derniers jours, l'attitude, il faut le dire, de Jean Castex posait question, hein, comme si le Premier ministre avait baissé la garde. La semaine dernière, on a pu le voir, vous disiez par exemple enchaîner les poignées de main chaleureuses avec les élus des Hauts-de-France lors d'une réception au ministère de l'Intérieur en marge du congrès des maires. Jean Castex sans masque dans ce lieu fermé, l'image est terrible pour celui qui se fait depuis des mois le chantre des gestes barrières. Surtout, Jean Castex est aujourd'hui positif alors qu'il est doublement vacciné. Et à lire les réactions sur les réseaux sociaux des anti-vaccins, cela renforce d'autant plus la défiance. Bref, cette contamination vient brouiller le message au pire moment politique finalement, puisque l'exécutif réfléchit à prendre de nouvelles mesures pour tenter de contrôler la reprise épidémique.
Alors Jacques, justement, à propos de nouvelles mesures, qu'est-ce qu'il faut attendre du Conseil de défense de demain?
Alors plusieurs points font l'objet de vives réflexions en ce moment au gouvernement. Le port du masque systématique en intérieur, mais aussi dans les centres-villes et les zones commerciales comme les marchés. Les jauges pourraient aussi faire leur retour dans certains lieux publics comme les boîtes de nuit ou les salles de concert. Enfin, le point crucial de ce Conseil de défense, c'est le pass sanitaire et la question de la troisième dose, la dose de rappel. Comme vous le savez, les plus de 65 ans ont jusqu'au 15 décembre pour la recevoir sous peine de voir leur passe invalidé. Les plus de 50 ans pourront recevoir cette troisième injection à partir de début décembre. Mais quid des autres tranches d'âge? Quel calendrier pour l'ensemble de la population? C'est ce qui pourrait être fixé demain. Et si Jean Castex est confiné à Matignon, la possibilité qu'il s'exprime demain midi en duplex à l'issue de ce conseil n'est à ce stade pas écartée.
Merci beaucoup Jacques. Il y a du relâchement dans l'application des contrôles du pass sanitaire dans les restaurants et dans les cafés. On est en direct avec Didier Chenet. Bonjour Didier Chenet.
Bonjour Romain Desarbres.
Bonjour. Président du groupement national des indépendants et représentant donc des restaurateurs, de la profession. Il y a un peu de relâchement hein, chez les restaurateurs et les cafetiers. Vous l'avez vous-même constaté, vous le dites, en consommant hein, dans les restaurants. On demande beaucoup moins le pass sanitaire aux clients, c'est très clair. Hein.
Oui, il y a eu un relâchement. Certains professionnels m'ont alerté. Moi-même, j'ai pu le constater dimanche dernier. Donc, il est de mon devoir de rappeler à tous nos professionnels donc de respecter les consignes, les gestes barrières, bien entendu, mais également le contrôle du pass sanitaire. Je rappelle que le contrôle du pass sanitaire, enfin le pass sanitaire et la vaccination de nos salariés nous a permis de rouvrir nos établissements. Alors, je ne voudrais pas que demain, avec l'épidémie qui repart de plus belle, eh bien, nous ayons des contraintes et que nous courions, pour certains, à la fermeture de leurs établissements.
Vous, voilà. Vous connaissez par cœur les professionnels, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, il y en a marre?
C'est pour ça
qu'ils le contrôlent moins?
Non, je crois que c'est plus un phénomène de... Bon, on voit tout le monde qui laisse penser que le virus finalement circulait moins, qu'on commençait à revivre. Je crois que c'est plus ça. Mais c'est pas du tout une manière de dire bon, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un geste extrêmement simple, extrêmement coutumier maintenant. Le contrôle, on a vu, on a appris à vivre ça ne ralentit pas véritablement le service. Nous, on croit que c'est, bon, c'est un petit peu dans notre tempérament latin, au bout d'un certain temps.
Oui, il faut faire une petite piqûre de rappel des consignes.
On
le rappelle d'ailleurs, il faut le pass sanitaire, même en terrasse, pour prendre un simple café. Hein.
Absolument, absolument. Et c'est peut-être en terrasse qu'il y a le plus de relâchement, mais pas que, je le sais, je le reconnais. C'est pour ça que je l'ai redit encore une fois, le pass sanitaire. Je voudrais rappeler à tous, je rappelle à tous nos professionnels que l'année dernière, à la même époque, nous étions fermés. On n'a pas envie de revivre ces mois de fermeture d'angoisse comme nous les avons vécues. Donc, par conséquent, il en va de notre activité, de notre survie. Et je le dis avec toute, je dirais, la gravité qu'elle mérite.
Mmh. Qu'est-ce que le restaurateur risque en cas de contrôle et s'il y a des clients qui n'ont pas le pass sanitaire sur eux?
Et je rappelle qu'il risque une amende, mais que le client risque aussi de se voir verbalisé. Mais surtout, s'il y a récidive, il risque une fermeture administrative. Donc, je leur dis, de grâce, écoutez, si le pass sanitaire, vous pensez pour certains que ça peut pénaliser un petit peu votre chiffre d'affaires, est-ce que c'est pas mieux que d'avoir plus de chiffre d'affaires du tout parce que vous serez fermé et que nous ne bénéficierons pas dans ces cas-là d'indemnisation?
Et ils vont vous entendre, les
je
restaurateurs.
Pense, je peux vous dire, écoutez, je peux vous dire pour être allé ce week-end dans deux restaurants, tout de suite, là, il y a un de mes adhérents, parce que dans l'un, je n'étais pas chez un adhérent, dans l'autre, il m'a tout de suite appelé en me disant « Bon, ben, Didier, est-ce que c'était chez moi ?» Je dis « Non, c'était impeccable. » Vous voyez, donc, ça vous dit si les gens sont sensibilisés, et je pense que ce petit coup de gueule et ce rappel à l'ordre va faire du bien à tout le monde.
Merci beaucoup Didier Chenet, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous. Est-ce que cela va suffire pour calmer la situation en Guadeloupe? Ce matin, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a indiqué qu'il allait proposer des vaccins sans ARN messager au personnel soignant en Guadeloupe qui refuse de se faire vacciner. En attendant, le calme n'est toujours pas revenu sur l'île. Richard Garnier est sur place pour Europe 1. Richard, il y a eu de nouveaux affrontements armés entre manifestants et forces de l'ordre ces dernières heures.
La guérilla nocturne se poursuit en effet. À Pointe-à-Pitre, profitant de l'obscurité, les émeutiers armés ont continué à jouer au chat et à la souris, tirant à balles réelles sur les policiers. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Trois individus encagoulés, qui s'apprêtaient visiblement à commettre un nouveau pillage, ont été interpellés par une unité du RAID, fraîchement arrivée sur l'île. Et la nuit dernière, les heurts ont gagné le chef-lieu Basse-Terre. Des affrontements se sont déroulés entre émeutiers et gendarmes. Ces derniers ont essuyé des jets de cocktails Molotov, non loin du pont et de la cité. Une quarantaine de ces objets incendiaires auraient été utilisés. Scène de guerre civile la nuit, de blocus routier le jour. Les habitants à Pointe-à-Pitre, mais également à Basse-Terre, savent que leurs enfants devront encore rester à la maison et que eux devront encore composer avec les barrages routiers pour aller travailler. Le mouvement, aux revendications initialement sanitaires, prend une tournure de plus en plus insurrectionnelle.
Rudolf Garnier, Richard Garnier, voilà, en Guadeloupe pour Europe 1 pour les toutes dernières informations. Des mesures pour améliorer la sécurité dans les stades seront proposées dans 15 jours. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'une réunion ce matin avec les instances du football français. On va y revenir en détail avec Jean-François Pérez. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h41, le coup de pression, on va dire ça comme ça, de Gérald Darmanin sur le monde du football après l'agression de Dimitri Payet dimanche soir lors du match OL-OM. Une réunion s'est tenue ce matin au ministère de l'Intérieur pour tenter de mettre fin aux violences. Un plan en plusieurs points. Jean-François Pérez avec nous, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats rapides?
Écoutez, déjà c'est le sens du message, hein. C'est un ministre de l'Intérieur très remonté qui s'est présenté devant la presse. Autour de lui, signe d'ailleurs que le dossier est pris très au sérieux par le gouvernement, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le président de la Fédération Française de Foot, Noël Le Graët, et le président de la Ligue, Vincent Labrune. Quatre axes de travail urgents ont été définis. Les interdictions de stade et les réponses pénales pour les fauteurs de troubles, la sécurisation des enceintes avec notamment l'installation de filets, le contrôle en amont de l'accès au stade via les sociétés privées de sécurité, et enfin l'amélioration du protocole de décision d'arrêt des matchs, on l'a vu dimanche, hein, 2 heures de palabres et de tergiversations entre l'arbitre, le préfet, les clubs. Et au bout de tout cela, une priorité totale, absolue, résumée par Gérald Darmanin.
évacuer la minorité agissante qui pollue évidemment le beau spectacle pour pouvoir permettre à la très grande majorité des amateurs de football de pouvoir vivre en toute sécurité leur passion, de protéger les joueurs, de protéger l'arbitre. Donc plutôt que de céder à l'émotion, nous préférons travailler sérieusement dans la perspective de 15 jours. C'est quand même extrêmement rapide et vous serez très informés des décisions que nous prendrons ensemble.
Voilà Gérald Darmanin au micro de Nina Droff. Vous l'avez entendu, hein, Romain, le ministre de l'Intérieur veut des réponses concrètes dans 2 semaines pour les transmettre au Premier ministre Jean Castex. Les dirigeants du foot français se réunissent dès cet après-midi à la Ligue pour démarrer, pour entamer cette réflexion urgente. Cette gangrène va nous tuer si nous ne réagissons pas, concède le pourtant très mutique président de la Ligue, Vincent Labrune.
Oui, les dirigeants du foot semblent avoir compris le message. Il faut que ça bouge.
Je pense qu'il n'y a plus le choix là.
Il n'y a plus le choix. Merci beaucoup. Jean-François, 12h43, un réseau de 15 passeurs démantelés dans le Nord. Un réseau très organisé qui sévissait depuis plusieurs mois et qui proposait la traversée de la Manche. Lionel Gougelot en direct de Lille. Bonjour Lionel.
Bonjour Romain.
L'OCRIEST, les policiers qui luttent contre l'immigration clandestine, estiment que c'est l'un des plus gros coups portés à un tel réseau depuis plusieurs années.
Effectivement, et la preuve en est, Romain, que l'on estime que ce réseau, organisé sur un mode quasi-industriel, hein, selon les enquêteurs, pouvait faire passer chaque mois au moins 250 personnes sur 4 grands zodiacs pouvant transporter chacun une 60aine de passagers. Des migrants candidats à la traversée qui étaient recrutés, entre guillemets, notamment dans le camp de Grande-Synthe près de Dunkerque, celui-là même, vous savez, qui a été évacué il y a quelques jours. Alors, ce qu'il faut savoir, Romain, c'est que dans les filières de passage, il y a différents types de traversées selon les moyens financiers des candidats. Et dans cette affaire, on peut estimer que c'était une filière haut de gamme, comme disent les policiers qui connaissent bien le sujet. 6 000 euros le passage, 6 000 euros par personne, hein, pour une prise en charge complète du départ à l'arrivée sur des bateaux pouvant donc rejoindre les côtes britanniques, disons, sans trop de risques. À ce tarif-là, les trafiquants auraient accumulé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et le réseau était tellement bien structuré qu'il avait même mis sur pied une filière d'importation de bateaux pneumatiques en provenance de Chine via la Turquie et l'Allemagne. Au total, donc, vous l'avez dit, 15 passeurs de différentes nationalités, des Kurdes, des Roumains, des Pakistanais, des Vietnamiens ont été interpellés dans la région de Calais après plus d'un an d'enquête. Hein. Reste à savoir s'il s'agit bien des chefs du réseau ou simplement des seconds couteaux, sachant qu'un réseau de passeurs, comme en matière de drogue hein, d'ailleurs, un réseau démantelé peut souvent être rapidement remplacé par un autre.
Merci beaucoup Lionel. Lionel Gougelot en direct de Lille. Les chiffres donnent le tournis. Hein. Je suis sûr que ça vous fait réagir chez vous ou dans votre voiture. 250 passages par mois à 6 000 euros le passage. Voilà, ça fait 1 500 000 euros par mois. Merci beaucoup Lionel. 12h45.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
Cette information tombée ce matin sur les prix des logements anciens en France. Écoutez bien, ils continuent de grimper selon les notaires et l'INSEE. Plus 7,4% en moyenne sur un an. Tout type de biens confondus. Plus 7,4%, c'est la moyenne. En région, les prix des maisons explosent en région. Plus 10% sur un an. Les prix des maisons qui augmentent de 7% en Île-de-France, ça stagne dans Paris intramuros. Cette information dont je voulais vous parler également. Un plan d'aide est en train d'être mis en place pour soutenir les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur se donne la mort tous les jours en France, selon la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Et on est en direct avec Julien Rouget. Bonjour Julien Rouget.
Bonjour.
Vous êtes en charge du dossier mal-être chez les jeunes agriculteurs, les JA. Et vous assistez en ce moment même à une réunion au ministère de l'Agriculture. Le ministre est en train de parler, vous êtes échappé pour venir parler aux auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qui
Exactement.
Se profile ? À quoi va ressembler ce plan ?
Alors tout d'abord, préciser que ce plan, du coup, fait suite à de nombreux travaux depuis des mois par les parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés. Et on a aujourd'hui 3 ministres, à la fois celui de l'agriculture, celui de la santé et celui en charge des retraites, qui viennent présenter l'accompagnement qui sera demain dédié aux agriculteurs en difficulté sur 3 grands axes. Humaniser, remettre vraiment beaucoup plus d'humains au cœur des relations et de l'accompagnement des agriculteurs. Développer et beaucoup plus aménager un réseau de sentinelles pour pouvoir repérer encore mieux les agriculteurs qui sont en difficulté, car tout l'enjeu est là de pouvoir les repérer à temps, j'ai envie de dire.
Oui.
Et puis un dernier axe très fort sur l'accompagnement de ces agriculteurs avec une simplification à la fois des numéros de téléphone pour avoir des gens disponibles pour l'accompagnement et aussi une structuration au local, à l'échelon départemental, de toutes les organisations qui travaillent déjà au quotidien sur les agriculteurs en difficulté, mais qui manquaient peut-être un peu de coordination et d'efficience aujourd'hui. Voilà Julien, les trois grands axes.
Les trois grands axes. Julien Rouget, ce qui m'a frappé en préparant votre interview, c'est qu'il y avait une structure mal-être chez les jeunes agriculteurs. Ça veut dire que ce mal-être, on le ressent dès le début de sa carrière professionnelle ? On peut le ressentir, attention, pas tous les agriculteurs, mais on peut le ressentir dès le début de sa carrière professionnelle ?
On peut le ressentir très rapidement, effectivement, dès le début de sa carrière, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand on démarre son activité, mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs professionnels, mais quand on démarre son activité en agriculture, on a un flot de démarches administratives qui est très important. Rajouter à cela des incertitudes économiques liées à des marchés, rajouter à cela une charge de travail qui est assez considérable dans notre métier, vous avez là trois facteurs qui font que, rapidement, on peut avoir des situations, heureusement ce n'est pas une généralité, mais situations compliquées. Et aussi, voilà pourquoi nous, jeunes agriculteurs, on s'intéresse à ce dossier du mal-être agricole, non seulement parce qu'on peut en être touché très rapidement, mais aussi parce que on estime que le service rendu, quelque part, par les générations précédentes, ne doit pas être oublié, et les agriculteurs qui ont fait le travail, qui ont construit les exploitations d'aujourd'hui, les entreprises que nous allons reprendre ou que nous avons repris doivent être accompagnées au mieux, et on ne doit pas les laisser de côté, ça ne doit pas être les oublier. Donc c'est vraiment très très important pour nous.
Bien sûr.
Et derrière, c'est aussi l'image qu'on renvoie du métier d'agriculteur. On a envie de faire la promotion de toutes les filières auprès de nombreux porteurs de projets pour qu'il y ait beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui viennent s'installer en agriculture ou travailler en agriculture, et de montrer qu'on est capable d'accompagner aussi nos agriculteurs qui sont en difficulté. Pour nous, ça paraît indispensable.
Ça paraît indispensable, c'est important effectivement, et il faut le dire, c'est vrai que c'est un métier d'avenir, c'est un beau métier, et il y a de très beaux parcours dans ce secteur. Merci beaucoup Julien Rouget, je vous libère, et vous pouvez retourner aller écouter le ministre Julien de Normandie. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. 12h50, la maladie de Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du Trésor de TF1, annonce qu'après son cancer de la prostate, dont il a guéri, il souffre depuis mai dernier d'un cancer du poumon. Il le dit lui-même, il a beaucoup fumé. Écoutez, il a enregistré ce message.
Eh oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines. J'attendais un petit peu pour en parler. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, ben j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle.
Voilà, tout est sous contrôle, dit Jean-Pierre Pernaut. Message sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Jean-Pierre Pernaut qui reçoit depuis évidemment des centaines de messages de soutien. Il est 12h51, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Céline Géraud. On va revenir sur l'immense succès de la série 10% qui a été récompensée cette nuit à New York. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Vous avez reconnu probablement, très certainement, le générique de la série 10%. Pourquoi je vous diffuse ce générique dans Europe Midi ? Parce que après le carton en France, le triomphe à l'étranger pour la série 10%, 10% récompensé par l'International Emmy Award de la meilleure comédie. Céline Géraud, bonjour.
Bonjour Romain.
C'est fou que cette série fonctionne à l'étranger, alors que, j'allais dire, elle est très très française. Hein.
Complètement, et c'est vrai. Presque une anomalie, hein. C'est le triomphe d'une Made in France, la série française qui fait rire à l'étranger. Les critiques sont dithyrambiques, Romain. Sarcastique, drôle, subtil, so French. Les Américains ne connaissent pourtant aucun des comédiens, mais ils adorent. Lancée en 2015, 10% c'est 4 saisons, 24 épisodes. Elle suit le quotidien d'ASK, cette petite agence parisienne de stars du cinéma, avec une marque de fabrique percutante. Dans chaque épisode, les vraies stars jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Exemple avec cet extrait, Charlotte Gainsbourg avec son agent Camille Cotin.
Merci Charlotte, je suis au bureau de prépa, là. Oscar a l'air d'aller vraiment beaucoup mieux.
Je pense que tu vas pouvoir lui parler.
Non, mais j'ai bien réfléchi. Je vais rien lui dire, je vais le faire, ce film.
Charlotte, là, ça va être un navet, quoi.
Mais alors, tout le monde fait des navets. Il y en a, c'est pour payer leurs impôts, ben moi, ce sera par amitié.
Non, je peux pas te laisser faire ça, je te rappelle.
Voilà cet extrait rebaptisé Call My Agent, appelé mon agent aux États-Unis. La série triomphe désormais sur la plateforme américaine de Netflix. Elle a été vue dans plus de 200 pays. Nicole Kidman et Jennifer Aniston sont fans dès la première heure. Près de 20 remakes de 10% sont en production, notamment en Grande-Bretagne, au Canada ou en Inde. Et nous alors, eh bien, la saison 5 est en cours et ce sera plutôt un long métrage qui pourrait bien suivre l'aventure de nos agents de stars français exilé à New York, à suivre.
Merci beaucoup Céline, voilà des agents qui ont à gérer, comment dire, des personnalités fortes. Hein.
Oui, qui acceptent justement d'être brocardés et d'être parodiés aussi, c'est voilà. Ça la force de cette série.
Les acteurs et les actrices.